Écoutez le programme de Studio Kalangu, il est 17h. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'édition d'information de ce jour à Omicron Fils Adam Sirfo. Le fonds d'aide à la presse au titre de l'année 2021-2022 a été reparti ce matin à Niamey entre les médias bénéficiaires. L'annonce a été faite par le Conseil supérieur de la communication. Le président de l'institution donne des précisions dans ce journal. Ensuite, nous irons dans la région d'Agadez où les ex-prestataires de la migration continuent toujours de dénoncer la loi criminalisant toutes les activités liées à la migration irrégulière. Enfin, le magazine de cette édition revient sur les conclusions d'une étude de SwissAid à Dentchandou sur les violences basées sur le genre à l'égard des femmes. Le Conseil supérieur de la communication CSC a animé ce matin un point de presse relatif à la répartition du fonds d'aide à la presse au titre de l'année 2021-2022. Le montant total à repartir entre 52 médias pour les deux années s'élève à plus de 415 millions de francs CFA. Suivons les détails avec Dr Kabir Sani, président du CSC.
Au total, le montant à répartir au titre des deux années s'élève à 416 271 070 francs CFA. Donc, au titre de l'année 2021, 208 080 919 francs CFA. Au titre de l'année 2022, 208 190 151 francs CFA. Le secrétariat général du CC a réceptionné au total 56 dossiers pour les deux années, dont 28 dossiers pour 2021 et 28 dossiers pour 2022. Repartis comme suit. 22 dossiers de la presse écrite ont été examinés, dont 11 pour 2021 et 11 pour 2022. 24 dossiers de radio ont été examinés, dont 12 pour 2021 et 12 pour 2022. 10 dossiers de télévision ont été examinés, dont 5 pour 2021 et 5 pour 2022. Il faut noter que la moyenne étant de 10 sur 20, la plénière a repêché les organes ayant une moyenne supérieure ou égale à 9 sur 20. En conclusion, sur les 56 dossiers, 52 ont bénéficié du fonds d'aide à la presse 2021 et 2022.
Des propos recueillis par Fika Taher. Les ex-prestataires de la migration de la région d'Agadez continuent de dénoncer les effets de la loi numéro 2015-036 qui criminalise les activités liées à la migration irrégulière. Selon eux, les dispositions de cette loi ont mis à genoux leur activité économique. Si certains ont eu quelque chose dans leur reconversion, d'autres attendent toujours l'État ou ses partenaires. On les écoute au micro de Tarnan Foudey Ahmed.
Cette loi a fait beaucoup de crimes. Mais qui est responsable de ces crimes? Ce n'est pas nous les prestataires. Avant, on travaillait bien, on passe par la voie normale. De Agadez jusqu'à Durkou, Durkou jusqu'à Madama, Gatron. Nous, on a arrêté le travail. On nous a dit à l'Union européenne qu'ils vont aider les gens. Ils nous ont dit de faire un projet de 1 million à 25 millions. Après, ils ont annulé les dossiers. Ils nous ont dit de refaire un autre dossier. 5 personnes à 1 million 200. Mais vraiment, il y a de nouveaux passeurs qui sont là. Jusqu'à aujourd'hui, les gens voyagent et les gens meurent dans le désert.
Je suis ex-chauffeur, l'immigrant. Là, c'est notre travail. Après l'accord de paix, vraiment, on n'a pas d'autre travail. Donc, nous prenons des immigrants jusqu'à la Libye dans les voies normales. À la dernière minute, on nous a dit qu'il y a une loi qui est venue. J'ai fait 4 fois la prison. 4 véhicules m'ont confisqué. Nous, les chauffeurs et les propriétaires de véhicules nous ont dit que nous sommes des criminels. On ne va rien nous donner. C'est ça ce qu'ils nous ont dit. On n'a rien eu de la part de l'État ni de la part de l'Union européenne.
La commune de Bankilaré accueille des déplacés et leurs enfants. Le complexe d'enseignement scolaire de la commune est dans une incapacité d'absorber ses élèves déplacés selon le proviseur. C'est pourquoi le responsable de l'établissement appelle les autorités à venir en aide à cet établissement. Amadou Yaye, proviseur du CS Bankilaré, est au micro de Youssouf Ilewat.
Avec l'arrivée des élèves déplacés, nous avons quelques difficultés qui sont liées à la capacité d'accueil, par exemple. Et nous n'avons pas suffisamment les moyens pour les accueillir parce que les classes ont déjà débordé. Nous étions dans l'obligation de dispatcher la terminale en deux. Et même la troisième, si c'est pas que nous sommes un peu bouleversés par la disponibilité des moyens, nous allons certainement disloquer les classes de troisième là en trois. Nous n'avons pas suffisamment de tables bancs. Les élèves sont assis 3-3, 4-4 dans certaines classes. 4 élèves en troisième surtout, c'est beaucoup. Les élèves déplacés, certainement, ils ont quelques problèmes. Ils sont vraiment en retard par rapport au programme d'enseignement que nous avons. Seulement la progression au niveau donc de l'enseignement que nous sommes en train de mener.
Parlons toujours d'éducation pour de bons résultats à l'école, surtout pour les filles. Il est important d'accompagner les filles dans l'apprentissage de leurs leçons, mais aussi de les soulager des corvées ménagères. Selon Mme Mahamman Sawida, directrice de la scolarisation de la jeune fille de Tessawa, les jeunes filles doivent aussi être soustraites du petit commerce. Nous l'écoutons au micro de Hawa Ousmane.
Le problème qui nous menace ici, mais surtout le manque de suivi de la scolarisation par les parents. Parce que si on veut que ça aille bien, il faut que les parents suivent bien la scolarité de leurs enfants. Ne pas trop les embêter avec les petits commerces, avec les travaux ménagers. Leur laisser le temps d'apprendre les leçons et d'aller à l'école à temps, surtout. Parce que si la fille part chaque fois en retard, elle ne peut pas amener le résultat qu'on veut. Quoi. Il y a chaque fois des cours qu'elle manque. Donc je ne vois pas comment elle va comprendre le cours là. Et au fil du temps, donc elle risque de devenir faible. L'appel que je voudrais lancer à l'endroit des parents, c'est de bien suivre la scolarité des enfants. Et le matin du bonheur, il faut aider l'enfant à aller à l'école à temps. Et éviter surtout d'occuper la fille le matin avec les petits commerces ou bien les travaux ménagers. Des grâces, laisser les enfants partir à l'école à temps.
Restons toujours dans la région de Maradi. Entre 600 et 700 femmes de 42 quartiers et villages environnants de Mayayi, région de Maradi, vont en consultation prénatale ou néonatale chaque mois dans le centre de santé de Mayayi. Ainsi, elles ont compris l'importance de ces consultations. Madame Sanoussi Mariam Gonda, responsable de la maternité du CSI de Mayayi, est au micro de Hawa Ousmane.
Alhamdulillah, il y a une nette amélioration par rapport aux années antérieures. Car avant, certaines femmes ne font aucun suivi de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Elles ne fréquentent pas le centre de santé. Présentement, ça va, elles viennent régulièrement pour les consultations prénatales et néonatales. C'est pour les accouchements, seulement que certaines femmes en campagne sont un peu réticentes. Mais nous continuons les sensibilisations sur ce domaine. Nous travaillons au minimum avec 42 quartiers et villages environnants de la commune de Mayayi. Chaque mois, nous accueillons 500, 600 voire 700 femmes qui viennent pour les consultations, mais aussi et surtout pour la vaccination des enfants.
L'actualité est toujours en région. La situation de l'élevage dans le département de Tchintabraden est difficile cette année. Le couvert herbacé est déficitaire par rapport à l'année dernière, selon les services de l'élevage. À cela s'ajoutent les déplacés maliens qui sont arrivés ces derniers temps en grand nombre avec leurs animaux. Pour le moment, la santé de ces animaux n'est pas connue. Écoutons Halilou Ibrahim, directeur par intérim de l'élevage, interrogé par Alamine Ouachar.
De l'ensemble des départements, on peut dire que la situation des pâturages est un peu mauvaise. Encore d'autres choses, il y a des animaux qui viennent de notre département qui quittent hors des territoires. On a constaté même au niveau des marchés, il y a une porte-présentation des animaux. Donc les animaux là viennent avec les réfugiés. On a essayé de conseiller tous les gens qui viennent avec des animaux là, de passer par l'élevage, parce que c'est des animaux qui sont venus hors des territoires. On ne sait pas s'ils sont sains ou bien s'ils portent d'autres maladies. Il a un impact sur le pâturage. Parce que, d'un, nous, on n'a pas assez de pâturage cette année. Et puis, il y a d'autres animaux qui viennent sur notre territoire. Donc, la situation est un peu compliquée, quoi.
La suite de ce journal, la pomme de terre peut bien être produite à Gaya, contrairement à une idée très répandue chez plusieurs producteurs de Gaya. C'est ce qui ressort d'une petite expérience réalisée par le préfet de Gaya et quelques maraîchers de la ville. Assimou Abarchi, préfet de Gaya, est au micro de Fadel Alou.
Quand j'y suis arrivé, on m'a dit que la pomme de terre, même si on sème, ça ne donne pas. Donc voilà le démenti. Cette année, j'ai fait une petite expérience, vous voyez le petit périmètre, avec un frère là, et voilà le résultat. Soit ça n'existe pas dans les mœurs des populations de Gaya, ou alors c'est un problème de technique culturelle. Mais dans tous les cas, voilà la preuve. On peut bel et bien produire la pomme de terre à Gaya. Et nous allons y atteler pour que la population de Gaya s'habitue à produire la pomme de terre. Parce que là où on produit la patate douce, là où l'eau est à 2 mètres, on ne peut pas dire que les tubercules ne peuvent pas produire. On produit du manioc également, et même de l'igname à Gaya, mais pommes de terre, voilà la preuve qu'on peut bien et bien produire. C'est un test, et c'est un test réussi, donc Gaya peut valablement contribuer à l'initiative 3N.
Nous restons toujours à Gaya où a pris fin hier une formation sur l'importance de la carte d'identité CDAO pour la libre circulation des personnes et de leurs biens entre les frontières du Bénin, du Niger et du Nigeria. La formation a concerné les communes de Gaya, Tanda et Tanunga qui rencontrent des difficultés le long des frontières de l'espace du Dandiganda. Salissou Mekolanche, secrétaire permanent du cadre de concertation du Dandi, est interrogé par Fadel Alou.
c'est d'informer au grand maximum les acteurs intervenants dans l'espace d'Aniganda qu'il y aura une campagne d'établissement des pièces d'identité, à savoir les cartes CDAO. Il y a trop de tracasseries au niveau des frontières. Et ces tracasseries sont dues à l'absence des pièces d'identité parce que tu ne peux pas quitter ton pays pour traverser une frontière sans pour autant être identifié. Donc, ces manques de pièces d'identification causent beaucoup de problèmes au niveau de la frontière. Tu es obligé de t'identifier avant de passer d'une frontière à une autre. Donc c'est pour cela que l'établissement de ces cartes aura beaucoup d'impact dans la zone et ça va vraiment aider à atténuer un certain nombre de soucis que rencontre la population sur les frontières terrestres et aussi au niveau des passages fluviaux.
Sport à présent, la Fédération nigérienne de badminton a organisé un championnat scolaire de la discipline le week-end passé à Niamey. En marge de ce championnat, un match amical a opposé l'équipe du Niger à un club de Kano, Nigeria. Une rencontre qui a permis de jauger le niveau technique de l'équipe nigérienne selon le président de la Fédération, Abdoulaye Hassan Issoufou, interrogé au téléphone par Mokhtar Hamadou.
Nous avons organisé un championnat scolaire de badminton. En marge de ce championnat, nous avons procédé au lancement d'un programme qu'on appelle le programme de promotion du sport féminin par la pratique du badminton. C'est un programme que nous mettons en œuvre en collaboration avec certaines écoles, notamment l'école Mission Fille. Cela va nous permettre d'avoir des dirigeantes femmes, des coachs, des arbitres et même des hauts responsables en fait au niveau des sphères décisionnelles. Le deuxième, c'est une série d'activités que nous avons bien voulu coupler à notre championnat scolaire. Vous avez d'abord le tournoi para-badminton, c'est le tournoi des personnes handicapées. Nous sommes déjà aussi dans un programme inclusif dont la finale est intervenue aussi ce week-end. Nous avons invité une équipe locale du Nigeria, l'équipe de Kano, pour un match amical. Ce match amical a permis à nos joueurs de rehausser leur niveau de performance.
Comme je vous l'annonçais, le magazine de cette édition revient sur les conclusions d'une étude de SwissAid à Dentchandou sur les violences basées sur le genre à l'égard des femmes. Écoutons Hawa Tondi, chargée des programmes, responsable genre à SwissAid, au micro de Samira Rouafi.
Le sujet, c'est vraiment un sujet sensible. C'était parti d'un constat des autorités communales qui nous ont approchés pour nous parler d'un certain nombre de pratiques de violence basées sur le genre dont les femmes sont vraiment des victimes.
Cette inégalité entre hommes et femmes, elle est due à quoi selon vous, madame?
Cette inégalité, selon les résultats de l'étude, c'est dû à peut-être les questions de pauvreté, parce que c'était sorti dans l'étude, les questions de pauvreté. L'homme n'arrive pas à assumer la charge de la femme. Donc ça crée des frustrations dans le couple et c'est ce qui amène vraiment ces cas de violence à l'égard des femmes.
Quels sont les types de violences que vous avez identifiées dans la commune de Dentchandou?
C'est surtout le plus récurrent, c'est la répudiation. Les femmes sont violentées, les femmes sont frustrées. C'était une manière de pousser la femme à demander le divorce. Quand elle demande le divorce, naturellement, elle doit rembourser la dot. Mais le problème, c'est que en plus de la dot, elle doit rembourser toutes les dépenses qui étaient liées, donc du fiançailles jusqu'au mariage.
Quelles pourraient être les conséquences sur la vie de ces femmes?
Il y a le taux élevé de divorce. En plus de ça, il y a les violences psychologiques sur les femmes.
Avez-vous établi des pistes de solutions ou des suggestions?
On a jugé nécessaire d'impliquer toutes les couches de la société dans la résolution du problème. Donc on fera vraiment beaucoup de formations sur les droits des femmes, sur les droits des enfants. Il y aura des conférences, débats sur différents thèmes qui tournent autour du sujet. Il y aura des sensibilisations aussi. Dans les villages, on a prévu des débats radio pour vraiment sensibiliser sur le phénomène.
C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Restez toujours à l'écoute de nos programmes pour la suite de l'actualité qui se poursuit.